Dans l'optique de favoriser une culture de partage et d'apprentissage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar, un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. Dans cet épisode, on vous présente comment la participation citoyenne se trouve au cœur du développement des communautés. Nous rencontrons Lucienne Gosselin-Gravel, qui s'implique bénévolement depuis plus de 25 ans dans la communauté de Whedon. D'ailleurs, au mois de novembre dernier, elle a reçu le prix Hommage aînés Estrie 2021. Madame Lucienne Gosselin-Gravel, c'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Vous qui avez mis sur pied tant de projets rassembleurs, pouvez-vous nous dire en quoi vous êtes connue en Estrie?
J'ai été impliquée dans l'Estrie depuis plusieurs années, surtout au niveau de ma municipalité de Whedon. Dans notre région, j'ai œuvré sur 5 projets que je pourrais dire que j'ai apprécié énormément. Par exemple, partir un théâtre avec une équipe de jeunes. Ensuite, j'ai piloté une fresque où 500 bénévoles sont venus peindre à la fresque. C'est un projet touristique. Ensuite, quand j'ai laissé ça au bout de 5 ans, on m'a demandé de trouver une équipe de bénévoles pour former le village relais. Et comme c'était des gens distingués, ce qu'ils m'ont dit, toi, tu connais beaucoup de monde du milieu, essaie de me trouver une dizaine de personnes. Ça a été fait, ça a bien été. Le village relais fonctionne aujourd'hui. Ensuite, on a eu la fameuse bataille du CLSC, du CHSLD de Whedon. C'est qu'on voulait nous enlever du CELI. On voulait fermer notre CLSC ici à Whedon. Quand ça a été annoncé un soir à une réunion, moi, je l'ai su une demi-heure avant la réunion. Je me suis hâtée pour aller à la réunion. Et puis, quand j'ai entendu la phrase, le CLSC de Whedon est désuet. Il faut le fermer, on va le vendre et on va tout déménager nos effectifs dans le CHSLD. Dans ma tête, c'était inconcevable. Je trouvais que ça pouvait pas se réaliser. Et le lendemain, tout de suite, je suis partie, je suis allée voir des individus. Je me suis rendue chez Whedon Auto, un garagiste ici qui vend des autos depuis X années. Puis là, je lui ai dit, ça n'a pas de bon sens, on peut pas laisser passer ça. Et instantanément, dans l'espace d'une semaine, on a fait un gros mouvement. On s'est ramassé 250 personnes dans une salle. Et puis là, on a tout expliqué ce qui s'en venait. Puis là, le mouvement est parti. Ça a duré 4 ans. Mais on a sauvé notre CLSC, notre CHSLD. C'était comme la prunelle de nos yeux, ça. Nous enlever ça, là, c'est... Pour nous autres, à Whedon, c'était comme la fin d'un petit village. C'était trop faire partir de services essentiels. Puis nous autres, la santé, c'est ce qui passait en premier de tout. Alors, on s'est battu. Moi, je suis assistée pendant 3 ans à toutes les réunions du CLSC, CHSLD, des hautes instances. Les réunions avaient lieu à Cookshire, à East Angus et à Whedon. Et moi, je suivais toujours. Dans l'espace de 3 ans, je n'ai pas manqué. Je n'ai pas manqué une réunion. Et je peux vous dire que j'ai motivé du monde là, à bien s'organiser. Mais je n'étais pas la seule motivatrice. On avait un médecin avec nous, on avait comptable, des professeurs, directrice d'école, on avait des infirmières, on avait toutes sortes, il y avait toutes sortes de belles professions avec nous dans les 10 personnes qu'on avait. On a foncé là-dedans à fond de train. On a fait une réunion à toutes les semaines, du mois de septembre à au mois de décembre. À tous les lundis soirs, on avait une réunion, on n'a jamais lâché. Ça, c'était le début. Après ça, bien là, on a embarqué. On a fait une grosse manifestation à Whedon. On a barré la route de la 112 le 26 janvier, si je me rappelle bien, je pense que c'est à l'entour de 2013-2014. Et on a fait venir les médias d'information. Puis, je vous assure qu'on s'est battu. Puis, on s'est tenu debout. Puis, on a gagné. Comment je vous dirais qu'à ce moment-là, j'aurais crié, j'aurais fait n'importe quoi, là, mais j'étais au comble du bonheur.
Suite à ce projet-là, vous vous êtes lancé dans celui d'une nouvelle coopérative d'habitation pour aînés à Whedon. Pouvez-vous nous raconter?
Oui, à la suite du projet du CLSC, du CHLD, j'ai continué dans la même veine avec les aînés, parce que premièrement, moi, j'en suis une. Je frise le 80. Alors, j'ai vu que c'était essentiel de travailler pour notre population, pour essayer de garder nos gens à Widon parce que on se rendait compte que on perdait la jeune génération et là on était en train de perdre la génération des aînés qui s'en allait vers les grands centres. Et on se dit faut qu'il y ait une fin à ça, faut garder notre monde parce que les gens d'alentour de 75-80 ans ont certaines racines aussi dans leur milieu et puis pour assurer leur stabilité émotionnelle, on a décidé que ce serait un bon projet de partir une coop, parce qu'on avait déjà une coop à Widon. Elle logeait 12, c'était pour 12 logements, mais nous, on s'est réunis, un groupe de citoyens, puis on a dit, il faut faire plus que ça. On a décidé, à la suite de plusieurs réunions, 26 unités. Ça a été accepté à Québec par la SHQ. Et ensuite, ben, dans ces 26 unités-là, on a décidé qu'il y aurait 6 logements pour des personnes en couple. Il y aurait 18 logements pour des 3,5. Et je reviens pour les personnes en couple, c'était des 4,5. Et je continue, on a 2 logements. Il y en a qui appellent ça des lofts, ou je sais pas trop quelle expression dire, mais c'est des 1,5. Et c'est la décision qu'on a prise pour pouvoir garder notre population dans notre milieu. Puis le projet a été présenté aux hautes instances. Après ça, ça a parti, puis on a réalisé. On peut dire là, qu'on est rendu à l'étape de la réalisation de la construction, parce que je pense qu'à l'automne, la bâtisse devrait lever.
Puis ça vous a pris combien de temps pour mettre sur pied une habitation collective comme celle-là?
Faut être patient. Ça a pris environ 5 ans. Nous avons commencé en novembre 2017 au restaurant, lorsqu'on a jeté en l'air cette idée-là. Et au mois de décembre, on avait déjà une réunion. Notre comité était déjà formé. J'avais déjà sollicité 2 personnes, moi, qui avaient travaillé avec moi sur la campagne du CLSC et du CHSLD. Puis je trouvais que c'était 2 personnes qui étaient très dynamiques puis très, très compétentes. C'était un ancien professeur qui avait enseigné à 11e année. Il avait déjà fait de la radio. Il avait fait partie d'un syndicat à Québec, mais là, il demeurait ici à Widon depuis un certain temps. Puis c'est un homme qui s'impliquait beaucoup. J'en avais un deuxième en qui j'avais bien, bien confiance. Je l'appelais mon bras droit. C'était Éric Décubert. C'est un retraité de l'armée. Il avait travaillé, lui, dans l'armée sur des bâtiments. Il y avait des responsabilités là-dedans. Et je savais que lui pourrait m'épauler là, pour commencer à partir. Nous étions seulement 3 cette journée-là que j'ai décidé ça. Ça, c'est après être revenu du restaurant. Ça a été assez rapidement. Alors, c'était mes 2 premières personnes. Et moi, je disais toujours à l'équipe, moi, dans la vie, là, c'est peut-être une petite expression qui est un peu banale ou je sais pas trop comment dire, mais je dis, je fonctionne comme une charrue. C'est-à-dire, moi, je suis la pointe en avant, puis il faut que j'aie 2 bras, chaque côté de moi, un bras droit, un bras gauche, et il faut que j'aille me chercher 2 personnes bien solides. Et si on est 3, ça fait un triangle, puis on fonce. Fait que c'était ma méthode de fonctionner. À toutes les fois que j'ai parti en équipe, je l'ai toujours parti de cette façon-là. Je partais toujours sans triangle. Disons que c'est un peu imagé, mais c'est ma méthode. Et les 2 messieurs m'ont suivi. Et dans l'espace d'une semaine, mon équipe d'environ 10 de personnes était déjà formée. Et là, on était alentour du, si je me rappelle bien, c'est alentour du 17 ou du 21 novembre en 2017. Et on avait déjà notre première réunion au mois de décembre. La présidente, Nicole Bauduc, avait appelé à Sherbrooke, la FIDE, ou je sais pas trop, là, des informations des gens qui les guidaient dans les coop. Et elle a soumis l'idée qu'il y avait des gens à Widon qui seraient intéressés à partir d'une coop. Puis tout de suite, ils sont venus nous rencontrer. En janvier, on avait une rencontre avec le premier chargé de projet, qui était Mme Carole Ouellette dans le temps. Elle était fameuse. Elle nous a toutes bien initiées à ça, avec des PowerPoints. Elle a organisé une rencontre publique avec la population. La population est venue en grand nombre. Je me rappelle bien, ce soir-là, on avait peut-être 90 personnes qui étaient dans la grande salle du centre communautaire. Puis là, tout de suite, des gens ont signé des formulaires d'intérêt. Je pense que cette soirée-là, on avait 45 ou 50 formulaires d'intérêt de signer par des gens qui étaient dans la salle. On a continué. Et en continuant, on s'est rendu à 117 personnes qui ont signé des formulaires d'intérêt. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on a. On a abouti à ça. Puis avec ça, c'est ça qui nous a permis de partir le projet, puis d'avancer là, rapidement, puis de se rendre à Québec, puis d'être accepté par la SHQ. C'est un peu notre cheminement. Là. C'est le début. Le début, c'est fait comme ça. C'est parti d'un restaurant.
Ça ressemble à quoi un groupe promoteur comme celui que vous avez constitué pour créer la coopérative? C'est quoi les compétences que ça prend?
Dans les 12 personnes que nous sommes allés chercher, c'est certain que c'est tous des citoyens de Whedon. J'en ai un de d'Ordwell, mais ces personnes-là ont plusieurs compétences et je vais vous expliquer, ça prend des compétences différentes. Entre autres, on a eu une personne qui a travaillé pour une caisse des jardins 32 ans. On a une autre personne qui a été enseignante à la 11e année, qui a travaillé pour le syndicat de la CSN à Québec. Il a déjà fait de la radio. On a un échevin qui est de notre district. On a un autre échevin qui est parti d'ici de Whedon, mais c'était une dame, elle nous a aidé beaucoup. Il y a encore un troisième échevin qui est arrivé puis qui aujourd'hui est devenu maire. Fait que c'est pas négligeable. On a l'ancienne présidente de la coop qui avait géré la présidence pendant 10 ans. Elle connaissait tout le roulement d'une coop. On a une personne qui est agriculteur. C'est notre personne de Bishopton. On a une autre personne. On a deux personnes qui sont retraitées de l'armée. Et ces deux personnes-là, c'est des personnes qui ont travaillé sur des bâtiments de l'armée. Et là, j'irai pas dans leur champ d'action de l'armée, mais c'est nous autres qui sont arrivés avec des compétences qui étaient très, très, très appréciées. On a une personne qui a notre webmaster. Elle a une très bonne formation en informatique. Et quand on fait des diapos, toutes sortes de choses, la publicité, ainsi de suite, là, c'est mon mentor, ça. Ensuite, bien, il y a moi-même. Il y a moi-même que j'ai été dans l'enseignement du secondaire. J'ai enseigné aux adultes. Je me suis joint à mon mari dans un commerce familial. C'est un commerce de meubles et d'électronique. Et puis, à travers tout ça, vers la fin de la carrière, là, j'ai embarqué dans toutes sortes de projets de bénévolat où je pouvais me réaliser parce que je trouvais que dans le commerce, j'étais très limitée. Puis j'avais un dynamisme, puis je voulais connaître un champ d'action plus grand que ça. Fait que c'est ça l'histoire de notre comité, la formation de notre comité, des compétences de notre comité.
Vous avez clairement un don pour rassembler les gens. C'est quoi vos stratégies?
Oui, ça me fait plaisir de vous donner des trucs. Premièrement, la personne qui veut diriger une équipe, quelque chose de même, la première qualité, là, c'est d'être très motivatrice. Il faut croire notre projet à 100% si on sait que c'est un bon projet. Ça demande une question de jugement. Faut avoir un bon jugement. Être capable de dire oui, ça va, non, ça va pas, ça c'est bon, non, ça c'est pas bon. Alors, faut bien jauger les choses. Il faut savoir s'entourer de personnes positives et compétentes. Ça, c'est le point le plus important quand on forme une équipe. Aller chercher des personnes positive puis compétente. Si on a des personnes qui se font toujours l'avocat du diable dans une équipe, puis qu'on passe notre temps à perdre du temps, à perdre du niaisage sur les points virgules puis virgules, ça c'est pas mon style. Fait que moi là, ça je peux pas travailler comme ça. J'arrive dans les réunions, je suis bien préparée, mais j'exige aussi que les autres arrivent avec leur beau bagage, avec une bonne entente, avec une bonne volonté, puis on met tout ça en commun. Puis ça fait quelque chose d'intéressant. Je reviens toujours, il faut avoir des personnes positives, puis généreuses. Puis avec le sourire, on arrive à toutes sortes de beaux résultats. Il faut être aimable, il faut être agréable, il faut avoir de l'humour, il faut savoir rire un petit peu de soi-même. Quand on fait une petite erreur, on bifurque, ça arrive des fois qu'à un certain âge qu'on sort pas le bon mot, on en fait une farce, puis là, on part tout en rien. Puis ça sème un beau climat, puis un climat qu'on sent qu'on avance, pas qu'on n'ait pas toujours les pieds sur les freins. Non, non, ça, les pieds sur les freins, on n'avance pas avec ça. Mais c'est vrai qu'on a du fun. Oui, on a du fun. Oui, on a eu du fun, OK.
Expliquez-moi votre collaboration avec la municipalité de Whedon et vos différents partenaires. Donc, c'est qui et puis comment ils vous soutiennent depuis le début du projet?
Au tout début, au mois de novembre, en 2017, quand je vous dis que j'ai demandé deux individus venir m'aider, on s'est présentés tous les trois, tout de suite, là. On est allé à la municipalité, on a demandé une rencontre avec la maire, on lui a soumis notre projet, on lui a dit qu'on voudrait partir la phase 2 du Moulin des Cèdres et on voulait garder nos gens dans notre milieu. Le maire nous a très bien reçus, il était avec son DG du temps et on a été bien accueillis. On a été accueillis d'une façon positive et là, il nous a donné toutes sortes de directives parce que lui, c'est un homme qui connaissait ça parce qu'il avait déjà travaillé pour Accès Logis. Alors, pour lui, c'était pas de l'inconnu puis c'était facile pour lui de nous diriger. Et nous, on s'en allait dans le but de demander qu'est-ce que c'est que la municipalité peut faire pour nous. Alors, on a dit, c'est quoi vous pouvez mettre sur la table, là? On parle, là. On va avoir besoin d'un terrain, on va avoir besoin d'aide pour des professionnels pour étudier le terrain, la faisabilité du projet. C'était tous des termes que on connaissait pas tellement au début, mais qu'on apprenait au fur et à mesure avec des gens compétents. Ça, ça a été le premier contact. On a établi un autre contact. À un autre moment donné, je suis allée à une assemblée des caisses populaires, l'Assemblée générale. C'était à l'Assemblée générale, je me suis faufilée. Comme j'ai le don d'aller assez rapidement au but, je me suis rendue directement à la bonne personne. J'ai dit, on veut partir une coop. Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de nous aider? Quelle manière qu'on s'y prend avec vous pour avoir une aide pécuniaire, une aide financière? Et j'ai essayé d'établir tout de suite un contact. Le contact a été établi, le courant a bien passé. Il m'a dit, madame, ce soir, c'est pas le temps. J'ai dit, je sais, c'est pas le temps, mais je me présente. Ils ont décidé, dans leur groupe, de nous donner 40 000 $ en argent. Ils vont donner 40 000 $ à la première pelletée de terre. Ça a été promis depuis le tout début. La municipalité, dans le temps, ils nous avaient promis 50 000 $ puis c'était juste une entente verbale, mais avec le temps, comme le maire a changé, une autre méthode a fonctionné, puis il faut savoir fonctionner avec les municipalités aussi, hein, parce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Un changement de maire, un changement de politique, un changement d'option de pensée, ainsi de suite. Un projet peut virer de bord, là, on le sait pas, mais nous autres, ça a bien été. Alors, le nouveau maire, là, qui est là à l'heure actuelle, il m'a dit, Lucienne, il n'y en a pas question de 50 000, la municipalité ne versera pas 50 000, mais on va vous offrir d'autres choses. Ils ont travaillé ensemble, l'équipe des échevins. Ils ont décidé de nous donner la taxe municipale. Là, je ne voudrais pas trop m'embarquer dans des termes bien précis, là. En tout cas, là. On ne paierait pas les taxes pendant 50 ans. Alors, il m'a dit que c'était peut-être environ 200 000 $. Je me suis dit, on perd 50 000 $ en argent pour partir le projet. C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup d'argent, là. Mais par contre, si on ne paye pas les taxes pendant 50 ans, le projet part. C'est un allègement fiscal pour tout le CA, le nouveau CA qui sera là. Ils n'auront pas à payer des taxes les premières années. Et ça peut aider une entreprise à partir comme il faut, puis arriver sur du solide, de se mettre les pieds là à bonne place pour partir. Fait que je trouvais que l'idée est bonne, puis je pense que dans notre équipe, ça a été accepté, ça, comme ça, là, à l'heure actuelle. Mais on ne sait jamais, parce que, vous savez, un projet comme ça, là, ça avance, ça recule, ça avance, il y a de l'évolution, on est rendu une telle place, d'un coup, ça recule, on avance, c'est toujours comme ça que ça va pendant 50 ans.
Quels sont les défis quand on se lance dans la création d'une habitation collective, puis comment on les relève?
Des défis majeurs, il y en a plusieurs. Il faut savoir les rencontrer, il faut savoir travailler avec ça, puis il faut savoir les régler un par un. Quant aux défis, je dirais, là, la première chose, c'est le terrain. Il faut qu'il y ait une étude de terrain, il ne faut pas qu'il y ait de contamination, il faut que le terrain soit capable de bien porter la bâtisse. Après ça, il faut que ce soit replanté. Bon, ça, c'est avec la municipalité. Ça, c'était notre premier défi. Et là, on a eu vraiment, vraiment eu de l'aide. Il faut trouver aussi des sous pour le financement populaire. Parce que quand on commence un projet de même, on sait qu'on est dirigé par un GRT. C'est un groupe de ressources techniques qui sont de l'Estrie, qui sont venus nous rencontrer et puis ils nous ont guidés. Et puis ils nous ont dit, il faut que vous ayez un certain pourcentage de la valeur de la bâtisse, faut que vous fassiez votre part, faut vous montriez votre sérieux, faut que vous arriviez avec des sous. On nous a dit, ça prend environ 10% de la valeur du projet. Ça, c'était le défi majeur, ça, c'était le gros hic de notre projet. On nous a préparé une belle soirée d'information avec la population. Ça, c'est dans le mois de janvier, en 2018. Les gens de Sherbrooke se sont déplacés. Ils sont venus nous présenter un beau PowerPoint de ce que c'est qu'un projet de coop et toutes les aléas là, du fonctionnement de A à Z. La personne qui nous a présenté, Mme Carole Ouellette, elle était très compétente et le diapo était très, très bien présenté. Et c'est là qu'on a ramassé nos premiers dons, qui est les gens qui voulaient nous suivre dans ce projet. Il faut rencontrer aussi les principaux acteurs de la région. Là. Quand on dit principaux acteurs de la région, ça peut être des gens des caisses des jardins, je disais des gens de la municipalité, les gens des gros organismes de la région, parce que des organismes, vous savez, il y en a des gens qui ont de l'argent, là. Et il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils ont des petits coussins, puis ils les gardent de côté, mais ils vont les sortir les coussins pour des projets vraiment valables. Et ça, nous autres, on a contacté plusieurs organismes, si ça vous donne, et on a eu des beaux dons des organismes. On a certains dons, je dirais, quand on dit qu'on a déjà eu un don de 30 000 $ puis il est donné, il est déposé.
Donc ça, c'est un exemple d'une grande contribution du milieu. Vous dites que le financement par des dons puis des levées de fonds, c'est un défi majeur. Qui a appuyé votre projet à cet égard-là?
Les principaux participants qui nous ont secondés puis que ça nous a aidé à partir de bal, là. Les premiers, ça a été le Club Lyon. Le Club Lyon nous ont donné 5000 $ tout de suite en partant. Ça, là, je vais vous dire là que pour une personne qui est en tête d'un projet, là, c'est soulageant puis c'est encourageant. Après ça, il y avait une personne là-dessus, Marie-Lise Filion, qu'elle, c'est une personne qu'elle avait travaillé dans une épicerie tout le temps de sa vie. Elle avait un beau background puis elle savait comment s'y prendre pour aller chercher de l'argent. Elle a communiqué avec différents organismes. Elle a communiqué avec Moisson Estrie. Elle a communiqué avec leur fondation. Parce que les Lions ont leur fondation à Québec, elle a réussi à décrocher un autre 5000 $ de la fondation de Québec. Fait que ça veut dire que les Lions nous ont donné 10 000 $. Et le 10 000 $ est versé, il est déposé, il nous appartient. Fait que ça veut dire que ça, c'était nos premiers grands donateurs. Et il y a d'autres marchands qui ont suivi en nous donnant des sommes assez phénoménales. Tu sais, des montants là, de 2 000, de 3 000, de 5 000, tu sais, ça commençait à rentrer tranquillement. Il y a le député qui nous a suivis en nous donnant un montant de 2 000 $. Les montants de 1 000 et 2 000 $, là, ça a commencé à rentrer. Ensuite, il y a des montants de 500 $. J'aurais un petit fait à raconter d'une personne qui a donné un montant de 500 $. C'est notre centenaire ici à Whedon. Elle a dit, la journée qu'elle a eu ses 100 ans, moi, je veux me faire un cadeau. Elle a dit à sa fille qui était présidente du Moulin des Cèdres, je voudrais me faire un cadeau aujourd'hui. Moi, je voudrais donner 500 $ à la future coop. Fait que pour une personne qui fête ses 100 ans, puis qui dit, moi, je veux me faire un cadeau, mais que je veux donner 500 $ à une coop, je vous assure que ça, c'est peut-être un petit fait qui nous a fait sourire. Hein? On a trouvé ça merveilleux. Mais quand une personne centenaire s'embarque dans un projet comme ça, c'est motivant pour le reste de la population.
Comment vous vous êtes inspiré de bonnes pratiques?
On a eu la chance de visiter environ, je pense, c'est 4 coopératives au début, parce qu'on voulait savoir comment les autres fonctionnaient. Parce que nous, on n'avait pas d'expérience là. Et celle qui a été la plus significative pour nous, c'est celle de Racine. On a eu la chance de rencontrer Monsieur Gaston Michaud, que c'est une personne ressource, c'est une personne pilote, c'est un pilier pour les coops. Et il nous a donné toutes sortes de bons trucs, lui, comme à partir de notre coop. On a tous les conseils possibles, imaginables, pendant 1h30, 2 heures qu'on a été dans leur institution. Il nous a toutes fait visiter tous les étages. Et en dernier, il nous a gardé en réunion d'environ 1 heure. Puis là, on était 7 ou 8, nous autres, de notre équipe qui s'était rendue sur place. Et Monsieur Gaston Michaud nous a donné toutes sortes de bons trucs, là.
À votre avis, c'est quoi l'impact futur de la coopérative du ruisseau Whedon sur votre collectivité?
L'impact sera de permettre à la collectivité de garder les gens dans leur milieu. Plus de stabilité pour ces gens, c'est indispensable. Notre coop permettra d'assurer ces services pour des années à venir. Parce que les services qu'on veut donner dans cette coop-là, c'est sûr et certain qu'on s'oriente vers 2 repas par jour. Et il y a des gens qui ont besoin de ça. sont rendus à un moment donné, qui ont une décision à prendre, puis il y a des gens qui disent « je suis rendu là ». Alors, on aura une bâtisse qui pourra répondre aux besoins de cette clientèle-là dans les 4-5 villages environnants ici. Parce que notre coop, il ne faut pas oublier que c'est une coop qui se veut régionale. Hein. On veut desservir les gens de Dodgewell, de Lenwick, de Whedon, de Stratford, de Saint-Gérard, d'Amesud. Et c'est sûr et certain que ça va être facile de louer 26 logements à toute cette clientèle-là. Et ça va nous permettre de garder nos gens dans notre milieu, dans notre village.
Ça, c'est une grande source de motivation. Et qu'est-ce qui vous aide, sinon, à rester motivé dans un projet comme celui-là, qui est aussi long et aussi complexe?
Il y a une femme qui nous a dit, elle a 87 ans, elle a dit un petit slogan, « J'y suis née, j'y ai vécu et j'y reste ». Ça veut dire que, si je répète les phrases de M. Gaston Michaud, il dit « Les gens d'un certain âge ont des racines. Et si on déracine ces gens-là et on les amène dans un autre milieu qui est hors contexte, si on les amène dans un milieu qui est citadin au lieu d'être un milieu un peu genre style campagnard, la vie est différente. Et quand on a vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, d'une certaine façon, c'est pas facile pour ces gens-là, à un moment donné, de tout quitter, de tout laisser, puis s'en aller adopter un autre style de vie. Il y a des gens qui me disent, « Oh, c'est pas grave. Quand tu arrives à Sherbrooke, tu te fais de nouveaux amis. » Tu peux te faire de nouveaux amis, mais les amis que tu avais, toi, tu les perds. Parce que quand on est rendu à 80, 85, 88 ans, tu retournes pas dans ta place pour aller visiter tes amis. Comme nous autres, moi, depuis en 88, je suis à Whedon. Depuis en 88, à tous les vendredis matins, je vais au restaurant. On est deux, trois groupes de femmes qui discutent ensemble. Il y en a qui perdent. Il y en a qui sont partis de Whedon. Il y en a qui sont décédés. Mais il reste qu'il y a un petit groupe qui est toujours là. Puis on va toujours aux nouvelles le vendredi matin. On sait qu'il y en a un qui est décédé, il y en a un qui vient d'être malade, il y en a un qui est parti en voyage, il y en a un autre, ainsi de suite. Là. Toutes des histoires de petits villages. Là. Et puis, on a du plaisir ensemble. Ben ça, là, ça, c'est pas achetable, ça. Ça, là, si on nous enlève ça, là, c'est ça que j'appelle du déracinement. Là. On peut plus continuer comme ça. Si moi, je pars là, de Whedon, puis je m'en vais résider dans un gros building à Sherbrooke, ben je traîne pas mes amis, là. Non, là, il faut que je me réadapte à un autre style de vie. Et c'est ça qui nous motive à travailler sur un projet comme ça.
Madame Gosselin-Gravel, on arrive à la fin de l'entrevue et j'aimerais que vous nous partagiez une citation qui vous inspire en tant que citoyenne engagée.
La citation qui m'inspire me vient d'un professeur que j'ai eu quand j'étais jeune. J'étais pensionnaire 3 ans de temps à Drummondville. Et quand j'ai gradué, elle nous a dit... Vous en allez dans chacun dans vos villages. Nous étions 16 finissantes. Vous en allez chacun dans votre village. Vous avez reçu plus que les autres. Vous devrez donner plus que les autres. Et à partir de cette phrase-là, ça m'est toujours resté bien ancré en moi-même. Je dirais que ma devise, moi, c'est quand on a reçu plus dans la société, il faut donner davantage à la société. Surtout quand on bénéficie d'une bonne santé. Puis quand on bénéficie d'une bonne santé, c'est vraiment un privilège. Puis il faut vraiment partager ça avec tout notre monde.
Madame Lucienne Gosselin-Gravel, je vous remercie pour cet entretien et on vous souhaite un bon aménagement dans la coopérative d'habitation du ruisseau Whedon en 2022. Vous écoutiez Sonore. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.